Tout le monde connaît ASICS, mais saviez-vous que son nom est l'acronyme d'une célèbre expression latine, Amina Sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. ASICS, c'est la marque numéro 1 du running en France et elle est fière non seulement d'être le partenaire officiel de tous les coureurs du Schneider Electric Marathon de Paris, mais aussi d'accompagner chaque jour des millions de runners dans la pratique de leur passion qui les aide à faire du bien à leur corps et à leur esprit. Bonne écoute!
Bienvenue sur le podcast officiel du Schneider Electric Marathon de Paris. Cette émission va vous inspirer, vous motiver et vous aider dans la préparation de votre prochain défi sportif. Bonne écoute!
Soyez les bienvenus sur Objectif Marathon, le podcast officiel du Schneider Electric Marathon de Paris. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans cet épisode à l'hydratation du coureur, un besoin vital, en particulier quand on s'entraîne en plein été. Et pour nous aider à y voir plus clair comme de l'eau de roche, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le docteur Stéphane Cascua. Merci Stéphane d'avoir accepté mon invitation et de répondre à mes questions. Comment vas-tu ?
Eh bien Guillaume, ça va super bien, j'ai fait un petit triathlon avec mes copains hier et je n'ai pas gagné mais j'étais content.
Eh bah parfait, Stéphane, c'est la première fois qu'on a le plaisir de t'accueillir dans le podcast Objectif Marathon et pour nos auditeurs et auditrices qui peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter à eux ?
Bah, de façon synthétique, je suis un médecin du sport sportif, voilà. Je mets ma pratique au service de mes patients, je suis marathonien, je suis triathlète, je fais un peu de trail, je fais de l'endurance équestre, de la muscu, du fitness. Bref, ma vie quotidienne est rythmée par mon entraînement matinal. Et puis j'adore communiquer, j'adore vulgariser, j'ai écrit plusieurs ouvrages sur notamment la nutrition du sport et je suis rédacteur en chef d'une revue très sympa qui s'appelle docdusport.com.
Bon, bah, je suis sûr qu'on est entre de bonnes mains. On accueillera en toute fin d'émission Harry, qui est un marathonien guadeloupéen, producteur de bananes de Guadeloupe, et qui nous donnera aussi quelques conseils parce que en matière d'entraînement en été et sous forte chaleur, je pense qu'il sait de quoi on parle. Avant de rentrer aussi dans le vif du sujet, Stéphane, j'aimerais te poser une question juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses que aller voir un spécialiste du sport qui connaît notre pratique, qui connaît la course à pied, qui est presque spécialisé dans ce domaine-là, est-ce que c'est, selon toi, un vrai plus en matière de conseils ?
Bah bien sûr, on a un vrai vécu des bobos accumulés, on a un vrai vécu de l'entraînement, et en toute honnêteté, j'allais dire 50%, parfois 80% de mon message médical tourne autour de la modulation de l'entraînement, de la variation de l'entraînement, de l'adaptation de l'entraînement face à une blessure.
Stéphane, aujourd'hui, on va s'intéresser aux particularités de l'entraînement en été et notamment toutes les questions relatives à l'hydratation du coureur de fond. D'ailleurs, on dit souvent que après l'oxygène, l'eau, eh bien, c'est l'élément le plus important à notre organisme. Mais finalement, pourquoi est-ce que l'eau, elle est si importante que ça pour notre corps ?
Bah parce qu'on vient de la mer. Alors, la vie est née dans la mer. Nous sommes sortis, entouré d'un manteau marin qui s'appelle le milieu extracellulaire. Nos cellules se sont constituées dans la mer, donc elles sont très riches en eau. Nous contenons 60 à 70% d'eau et c'est le milieu, c'est le diluant de l'ensemble de nos réactions chimiques.
Justement, il y a différentes études qui semblent démontrer qu'il faudrait boire environ 1,5 litre d'eau par jour, soit environ 8 verres d'eau au quotidien. Cependant, les chiffres divergent en fonction des recherches, des études et des morphologies aussi observées. Il y a même certaines personnes qui affirment que cette recommandation de boire 1,5 litre d'eau par jour, bah, c'est purement du marketing issu de l'industrie de l'eau minérale qui chercherait pourquoi pas à nous faire boire bah, pile la quantité d'une bouteille d'eau. En tout cas, c'est pas forcément évident de s'y retrouver autour de tout ça parce qu'on entend beaucoup de choses. Du coup, selon toi, quelle est la quantité idéale d'eau à consommer par jour ?
C'est vrai qu'une méta-analyse avait réfléchi sur cette notion quantitative de 1,5 litre d'eau et il avait été mis en évidence qu'elle n'était pas tout à fait validée. En réaction, beaucoup de néphrologues, plus ou moins sponsorisés en effet par les vendeurs d'eau, ont remis à l'honneur cet ordre de grandeur, qui du coup je crois est juste. Parce que chez un sédentaire, c'est avec cette quantité d'eau qu'on obtient une urine claire, voire citronnade très légère. Et ça c'est un critère d'hydratation optimum. 1,5 litre d'eau, on est d'accord, c'est pour le sédentaire. À partir du moment où on s'entraîne, il faut boire plus. Alors, quelle quantité ? C'est extrêmement simple. On se pèse avant l'entraînement, on se pèse après l'entraînement. Ce que l'on a perdu, bien sûr, c'est pas de la graisse, mais c'est de l'eau. Donc il faut la remplacer. Et il est d'usage de dire que pour évacuer, entre guillemets, les déchets, les toxines, il faut ajouter 50%. Donc on boit 1,5 litre d'eau plus 1,5 fois la perte de poids pendant son entraînement. Et je dis 1,5, c'est le chiffre magique.
D'accord, donc 1,5 litre d'eau par jour, c'est une consommation générique qui est adaptée aux sédentaires. Évidemment, si on est un sportif, si on prépare un marathon, si on s'entraîne en été, ou si notre organisme a tendance à beaucoup transpirer, il faudra évidemment adapter sa consommation d'eau à sa pratique sportive et à ses besoins. On ne peut pas dire que 1,5 litre, c'est quelque chose qui convienne à tout le monde en fait.
Non, il faut l'adapter à sa pratique, il faut adapter à son entraînement du jour, à son aspect thermoproductif, la sueur qu'on a produite, et puis il faut également l'adapter à, en effet, sa morphologie et à son entraînement et à son mode de vie.
Mais du coup, à quel risque on s'expose si notre consommation d'eau, elle est insuffisante par rapport à nos besoins?
Alors, les données les plus classiques, notamment chez le sportif, c'est l'augmentation des concentrations en cristaux, par exemple. Lorsqu'on a un peu d'acide urique, vous savez, l'acide urique, c'est la goutte. Alors, il y a l'aspect caricatural de la crise de goutte avec l'orteil qui gonfle, qui devient très inflammatoire parce que l'acide urique qui était dilué dans beaucoup d'eau se cristallise lorsque la concentration augmente. Chez le sportif, ça peut se produire de façon un petit peu insidieuse, notamment chez le senior, et ces micro-cristaux viennent agresser les tendons, les membranes articulaires. Donc en effet, on concentre notre milieu extracellulaire et on peut créer des petits cristaux. Ça existe aussi tout simplement dans le rein. On va produire du coup des cristaux qui vont être à l'origine d'obstruction des voies urinaires. C'est ce qu'on appelle la fameuse colique néphrétique.
Donc des problèmes qui peuvent être très douloureux. Donc faites vraiment attention à votre hydratation. Alors ça, c'est pour le côté santé, mais d'un point de vue performance sportive, est-ce que une consommation d'eau insuffisante peut nuire à notre chrono? Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui peut intéresser certains coureurs et coureuses d'entre nous.
Alors c'est très intéressant parce qu'il y a des études qui traînent, qui disent que 2% de déshydratation, c'est 20% d'altération de la performance. Aérobie ou force, on sait pas bien. Est-ce que c'est la VO2 max? Est-ce que c'est le seuil? Est-ce que c'est l'endurance? En clair, les études qui ressortent, il semble que ce soit la VO2 max. Hein, et ces vieilles études sont dures à trouver. Et la VO2 max, c'est pas la performance en endurance. Ce qui est préjudiciable, c'est la surhydratation aussi. Déjà parce que ça va vous faire mal au bide. Et puis parce que, dans des cas majeurs, lorsque vous courez votre marathon à vitesse très lente, lorsque vous prenez votre temps, notamment de vous réhydrater, vous risquez de trop vous hydrater, de diluer votre propre sang. C'est ce qu'on appelle l'hyponatrémie. Hyponatrémie, ça veut dire manque de sel. Et à ce moment-là, l'eau va filer dans vos organes, notamment dans votre cerveau, et créer des malaises, des vertiges jusqu'au coma. Donc l'hyponatrémie, l'excès d'hydratation, c'est un vrai souci aussi chez le marathonien, tout particulièrement chez le marathonien consciencieux dont les performances sont moyennes.
Justement, ça pose la question de la capacité que notre corps a à assimiler l'eau. Parce que ça nous est tous arrivé. On rentre d'une séance, une sortie longue par exemple, en plein été, il a fait très chaud, on ne s'est pas hydraté. Et du coup, quand on rentre, on va se jeter sur la bouteille d'eau et on va presque boire 1 litre d'eau, allez, en l'espace de 2 minutes. Est-ce que notre corps, il est vraiment capable d'assimiler autant d'eau en un si laps de temps? Est-ce que c'est quand même une question qui se pose?
Bien sûr, on va perdre. C'est obligatoire. On va perdre plus de flotte quand on s'entraîne par temps chaud qu'on est capable d'en digérer, d'en assimiler, d'en intégrer. Grosso modo, on peut faire 500 millilitres par heure. C'est déjà pas mal. Hein. Parce que le tube digestif, je vous rappelle qu'en courant, il est malmené. Il est malmené par les secousses inhérentes aux foulées et il est malmené par le manque d'oxygénation puisque les vaisseaux s'ouvrent vers les masses musculaires en action et se ferment vers les organes végétatifs, notamment le tube digestif. Donc la digestion, l'assimilation de ce qu'on ingère est particulièrement altérée pendant l'effort.
Stéphane, est-ce qu'il y a des moyens de savoir si notre corps est déshydraté? Parce que c'est pas forcément évident, c'est pas seulement une sensation de soif, des fois c'est un petit peu plus subtil. Donc quel conseil tu pourrais nous donner pour savoir si on est bien hydraté, si notre consommation répond bien à notre besoin?
Alors, il est vrai que des études mettent en évidence que la sensation de soif apparaît à partir de 2% de déshydratation. 2% de déshydratation qui, je vous en rappelle, semble correspondre à 20% d'altération de la perf. Donc il faut anticiper un petit peu, mais pas trop. Vous savez qu'il existe une vraie pathologie qui s'appelle la potomanie, qui rend pénible le protocole de réhydratation avec un envahissement du quotidien par cette notion de réhydratation. Beaucoup de sportifs boivent jusqu'à 3 litres par jour, c'est aussi et presque la définition de la potomanie. Donc je crois malgré tout que la nature est bien faite et que la sensation de soif reste un bon critère. Parce que il y a des études qui montrent que cette soif apparaît à partir, notamment dans le milieu sportif, à partir de 2% de déshydratation, à partir de 2% de poids de corps. Mais je vous rappelle aussi que ces 2% de poids de corps, c'est très souvent la perte de glycogène et d'eau liée à ce glycogène. Donc déjà, un critère de base, respectez au moins votre sensation de soif. Et puis soyez vigilant et un soupçon préventif pendant l'effort, avec les 500 ml par heure environ, et après l'effort, avec les 1,5 fois la quantité de poids perdu. Et puis, en rétroactif, les urines claires, soit transparentes, soit citronnades très légères. Jamais de bière dans les urines, voilà. Lorsque vos urines ont une couleur de bière, c'est que vous êtes déshydraté.
Du coup, à quel moment l'hydratation va être particulièrement importante? Est-ce que c'est avant l'effort, pendant l'effort ou après l'effort?
Alors, dans les efforts qui se prolongent, il est évident que l'hydratation progressive est opportune. Et l'ordre de grandeur de 500 ml par heure, si on arrive à l'atteindre, c'est déjà bien. Après, on risque tout simplement d'avoir mal au ventre. Comment on fait pour tenir? Eh bien, il faut regarder un peu ce qui se passe au haut niveau. Ce qui est très étonnant, c'est qu'un marathonien de haut niveau franchit la ligne au bout de 2h06 en ayant perdu 3 à 6% de son poids de corps. Déjà, essayez de choper un gobelet à 21 km, vous n'allez pas y arriver. D'accord. Donc en fait, il ne s'hydrate pas. C'est pas si dramatique que ça, explication. Parce que dans nos muscles, on a du glycogène, le fameux glycogène que l'on doit stocker pour éviter le mur du marathon. On en avait environ 500 grammes dans nos membres inférieurs. Et ce glycogène, c'est du sucre. Donc quand vous mettez un sucre dans votre café, il se dilue. Oui, parce que nous, on va stocker notre sucre, notre glycogène, avec de l'eau. 1 gramme de glycogène, c'est 3 grammes d'eau. Donc plus on va courir, plus on va libérer de l'eau au fur et à mesure qu'on brûle le glycogène. Et ça fait un litre et demi, voire 2 litres. Voilà. Et la perte de poids, du coup, n'est pas la déshydratation, parce qu'on a libéré ce qu'on appelle l'eau liée. Donc, en effet, on ne va pas parvenir à s'hydrater autant que notre perte de poids, mais c'est pas grave, parce qu'on va libérer la flotte qui est associée à nos réserves énergétiques.
Très intéressant. C'est vrai que les athlètes de haut niveau vont évidemment se ravitailler en eau durant le parcours. C'est extrêmement important. Mais la quantité d'eau qu'ils vont être capables d'assimiler va être inférieure à leur perte. Mais c'est pas forcément très grave puisque leur réhydratation ne va pas passer seulement par l'eau lors des ravitaillements.
Oui, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas arriver, en effet, à récupérer son poids de corps. Mais la perte de poids de corps, c'est pas la déshydratation, parce qu'on est plein de sucre. Et que si on est plein de sucre au départ, on est plein de flotte aussi. Et j'en rajoute une petite, c'est tout simple. Vous connaissez la combustion. Quand on brûle de l'essence, quand on brûle du sucre, quand on brûle de la graisse, on termine toujours par CO2 plus H2O, gaz carbonique plus eau. Quand vous brûlez votre glycogène, quand vous brûlez vos graisses, vous finissez par de la flotte. Et ça, c'est l'eau métabolique et ça en rajoute encore un peu. D'accord? Donc, ne pas chercher à récupérer son poids, ne pas chercher à avoir le même poids à l'arrivée qu'au départ, ce n'est pas possible.
Et avant l'effort et après l'effort, est-ce qu'on doit apporter une vigilance particulière à notre hydratation?
Eh ben oui, là, cette fois, oui. Mais vous allez pouvoir récupérer cette flotte que si vous l'associez à un apport glucidique. De façon pleine de bon sens, on va associer alimentation et hydratation.
D'accord, donc pour les entraînements ou les compétitions de moins d'une heure, le besoin de notre corps en liquide est faible puisque la déshydratation est peu importante et puis nos réserves de glucides sont suffisantes pour notre activité physique. Évidemment, s'il fait chaud, il ne faut pas hésiter à prendre de l'eau pour toute sortie de plus d'une demi-heure. Pour toutes les sorties qui vont dépasser l'heure, là, ça va être l'épuisement des réserves en glucogène musculaire. Et donc, ça va être l'une des premières causes de fatigue et d'épuisement lors de notre activité physique. Et donc là, il ne faudra pas hésiter à s'hydrater toutes les 5 km par exemple. Stéphane, sinon, je crois savoir que l'hydratation joue un rôle aussi très important dans la récupération sportive. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça ?
Alors, comme je te l'ai un petit peu exprimé et imagé autour du cristal d'acide urique, oui, l'image qu'on utilise, c'est qu'en effet, une éponge rigide, elle est plus cassable qu'une éponge humide. Donc, un tissu hydraté est plus souple. Et puis, ça joue aussi sur les phénomènes dits d'inflammation de bas grade. C'est-à-dire que quand on n'est pas hydraté, on irrite notre organisme. Et on crée de l'inflammation et on crée de l'autodestruction tissulaire.
Du coup, si on veut maximiser sa récupération grâce à l'hydratation, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Comment on doit s'y prendre ?
Alors, je vais essayer d'être cohérent avec ce que je viens de raconter, c'est-à-dire que je vous ai proposé de récupérer malgré tout, dans les heures qui suivent, l'hydratation que vous aviez initialement. C'est-à-dire que vous avez perdu 500 ml, sur la balance, on va essayer de multiplier par 1,5, on va essayer de récupérer 750 ml. Mais on va les récupérer en l'associant à de l'alimentation. On parle de fenêtre métabolique, vous connaissez cette notion, c'est-à-dire qu'on va refaire du stock en glycogène, beaucoup mieux juste après l'effort, parce que notre muscle a conscience de cette déstabilisation, il n'a plus de glycogène. Donc vous reprenez derrière du sucre, de l'eau, et tout ça va se restocker. Et ça nous bascule vers une alimentation assez vite équilibrée, c'est-à-dire que vous buvez, oui, mais après vous enchaînez avec un repas équilibré.
Stéphane, j'aimerais qu'on parle maintenant des boissons d'effort. Tu sais qu'elles sont très répandues, notamment chez les marathoniens et les marathoniennes. On en trouve presque de toutes les sortes. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ces boissons sportives ? Est-ce qu'elles sont indispensables aux sportifs ? Et aussi, comment est-ce qu'on doit les sélectionner si on veut en utiliser ?
Alors, c'est vrai, l'idée de base, c'est que une boisson avec du sucre et des minéraux est mieux absorbée que de l'eau. Parce que toutes ces molécules, tous ces minéraux vont faire ce qu'on appelle moteur osmolaire, c'est-à-dire qu'ils vont être absorbés par la muqueuse intestinale et puis l'eau va suivre. Donc oui, il faut mettre des minéraux, il faut mettre du sucre dans sa boisson de l'effort, notamment en compétition. Alors, il semblerait malgré tout, c'est le concept d'iso-osmolaire, c'est l'iso-osmolarité. Beaucoup de boissons de l'effort utilisent ce terme iso. C'est compliqué parce qu'on constate en effet qu'une boisson iso-osmolaire, c'est-à-dire qu'elle a la même concentration que le sang, est plus vite absorbée dans l'intestin. Mais elle est plus lentement évacuée de l'estomac. Donc, quand même, il est d'usage, avec l'expérience, quand même, de diluer un petit peu plus que ce qui est proposé. Il faut se servir de ce moteur osmolaire. Donc, on a du sucre, on a des minéraux, et c'est vrai que les minéraux inclus dans les boissons de l'effort, c'est maintenant, de façon obligatoire, du chlorure de sodium. Et c'est bien, ça évite la fameuse hyponatrémie de l'effort. Mais je crois qu'on peut faire mieux. Lorsqu'on pratique une médecine dite holistique, c'est-à-dire un peu globalisante, je vous ai dit en intro là qu'on était entouré d'un milieu marin, qui est notre milieu extracellulaire, parce qu'on est sorti de la mer il y a 3 milliards d'années, et on a besoin de l'ensemble des minéraux. On ne sait pas très bien ce qu'on perd dans la flotte. On perd de l'eau de mer, quoi. Et il y a des solutions, pas forcément moins chères que les boissons de l'effort, mais qui proposent de l'eau de mer concentrée et purifiée, c'est bien. Mais ça peut aussi être du sel gris de Guérande. Hein. S'il est gris, c'est qu'il n'y a pas que du chlorure de sodium. Il y a un peu de terre et finalement on vient de ce fond marin érodé. Donc moi, ce que j'aime bien, boissons de l'effort, si ça vous arrange, mais aussi jus de pomme ou jus de raisin, qui sont des boissons bien tolérées, diluées à 7, entre 4, diluées par 4, voire par 7, on rajoute une bonne pincée de sel de Guérande, et on a une boisson de l'effort holistique, biologique et naturelle.
D'accord, donc pas besoin de se ruiner dans les magasins spécialisés. Si ça vous fait plaisir, après, n'hésitez pas. Mais avec un petit peu jus de pomme, jus de raisin dilué et du sel de Guérande, ça fait très bien l'affaire. Évidemment, tu nous conseilles de les utiliser avant le jour de la compétition. Hein. Tout ça, il faut le tester à l'entraînement, c'est très important.
Bah bien sûr, on entraîne ses muscles et on entraîne aussi son tube digestif à tolérer de façon spécifique les conditions que l'on va imposer à notre organisme le jour de la compète.
Justement, en parlant de récupération, il y a quelque chose qui est très répandu. On le voit notamment quelques heures après le Schneider Electric Marathon de Paris, des marathoniens attablés sur des terrasses avec une bonne bière. La bière a souvent cette réputation d'être finalement une bonne boisson de récupération. Quid de l'alcool ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que, au-delà de l'aspect réconfort et mental qui est extrêmement importante, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt dans la bière pour le processus de récupération ?
Alors, il y a de la flotte, donc là, c'est pas mal. Il y a du malt, il y a du maltose. Donc, on a vu que la flotte se stockait avec le glycogène, avec le sucre, avec le malt. Donc, jusque-là, c'est assez bien. Et puis, il y a l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'alcool sur le plan rénal ? L'alcool, en fait, ça stimule la diurèse, ça stimule la production d'urine. Donc, ça réhydrate pas terrible, quoi. Donc, je pense que c'est pas la boisson idéale. Dans le business, on vous dirait qu'il faut poursuivre la boisson de l'effort. Il y a un peu de ça. Il faut boire pas mal, il faut boire sucré, il faut boire minéralisé après l'effort.
Donc on oublie l'alcool après, ouais. C'est pas forcément une bonne chose.
Non, c'est pas terrible, je crois.
On attend un petit peu, peut-être 2-3 jours. c'est mieux. Stéphane, au-delà de l'hydratation, quel conseil tu pourrais nous donner si on doit également faire face à la chaleur ? Parce que beaucoup de coureurs et de coureuses vont s'entraîner cet été.
Alors, eh bien, vous avez vu que c'était compliqué de remplacer la sueur parce qu'on transpire plus que notre tube digestif peut absorber. Eh bien, l'astuce, c'est quoi ? C'est d'économiser la sueur. Comment on fait pour économiser la sueur ? Eh bien, on s'arrose. Ça nécessite une toute petite explication. Quand on transpire, on se refroidit. Pas parce qu'on transpire. On se refroidit parce qu'on évapore notre transpiration au contact en utilisant la chaleur de notre corps. Eh bien, l'aspersion fait exactement la même chose, d'accord ? Et puis, puisqu'on s'asperge avec une flotte qui est un petit peu plus basse en température que les 37 de notre sueur, on gagne aussi en contact. Lorsque l'eau à 20 degrés coule sur notre corps, elle nous refroidit aussi. Donc, n'hésitez pas à vous asperger. Prudence aussi, puisque ça ferme les vaisseaux, pas vous arroser le ventre, puisque ce pauvre tube digestif, il est quand même malmené à l'effort. Vous arrosez essentiellement les épaules, la nuque et le thorax. Pourquoi pas quand il fait très chaud un peu les muscles des membres inférieurs. Et surtout, la casquette que vous allez mettre sur votre tête, qui est un verre réservoir à flotte, hein, et qui va en effet accumuler la chaleur en provenance de l'astre soleil. Et ça va nous aider à nous rafraîchir.
Stéphane, sur quoi on doit être vigilant aussi si on s'entraîne en été, s'il y a par exemple des pics de canicule, comment est-ce qu'on peut s'adapter, comment on peut adapter son entraînement à ces conditions climatiques ?
Alors bien sûr, l'entraînement matinal ou vespéral, on dit en doc, c'est-à-dire le soir, c'est plutôt pas mal pour la santé. Mais si votre compète, là, il y en a beaucoup qui sont décalés en fin d'été, si votre compète est sous le cagnard, il faut quand même être un peu spécifique. Et du coup, on fera pas tout en même temps. C'est-à-dire que vous savez qu'il faut dissocier les thèmes d'entraînement. On fait du long, on fait du seuil, on fait de la VO2. Et ben, on peut faire un entraînement thématique résistance à la chaleur. C'est-à-dire que le jour où je vais partir quand il fait chaud, je vais plutôt y aller à la cool. Parce que le thème de mon entraînement, ce sera adaptation à la chaleur.
Stéphane, il y a sûrement des auditeurs et auditrices qui vont préparer le Schneider Electric Marathon de Paris dans une grande ville, qui sont des urbains. C'est pas évident, l'entraînement l'été en ville. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil pour peut-être mieux vivre cette préparation ?
Alors, dans les grandes villes, alors en toute honnêteté, moi j'aime bien la salle de sport. Moi j'aime bien la salle de sport, un peu climatisée, c'est pas mal. Le tapis, ça permet de codifier un peu son entraînement. L'elliptique, j'adore l'elliptique. L'elliptique, ça permet de reproduire une gestuelle assez proche de la course à pied, donc bénéficiant d'un bon transfert dans les qualités vers la course, tout en réduisant les traumatismes des membres inférieurs et tout en bossant les membres supérieurs. C'est une véritable activité de gainage. Vous imaginez bien que l'elliptique, en bossant les abdos obliques, se révèle bien plus efficace pour le gainage que la planche traditionnelle à l'horizontale et sans bouger, hein. Je vous rappelle que le coureur se mobilise et se déplace à la verticale. On peut aussi jogger dans les parcs et jardins avec le petit piège suivant. Là, se stocke à la fois un peu la pollution du fait de l'humidité et l'humidité. Et vous savez qu'on évapore notre sueur quand le milieu n'est pas humide. Donc on va transpirer plus dans un parc. C'est aussi une façon de s'entraîner spécifiquement à transpirer, mais la sueur sera moins efficace que si vous êtes au grand air.
Au Schneider Electric Marathon de Paris, il y a des passages au Bois de Boulogne, donc c'est pas inutile de pouvoir aussi s'entraîner dans ce territoire-là.
Exactement, sous bonne raison de la spécificité, il faut varier les contextes.
Stéphane, Quel élément clé on doit retenir de cet épisode-là en matière d'hydratation et d'entraînement en été? Si tu devais synthétiser un petit peu tout ce qu'on s'est dit, quelle serait ta synthèse?
Ma synthèse, c'est qu'il ne faut pas être déshydraté de façon chronique. Il faut bien s'hydrater dans la journée. L'ordre de grandeur de 1,5 litre me paraît adapté. Nous, on parle de plan d'eau, nous les docs. Les plans d'eau, le plan d'eau, c'est allez, au moins 3 verres d'eau par repas. On a trop tendance, on a entendu dire, ah ouais, ça dilue les sucres gastriques. Non, au moins on pense à boire, donc à table on boit au moins 3 verres. D'accord ? On s'hydrate un petit peu dans les demi-journées qui encadrent les repas. Et puis, puisque la nuit est une période sans hydratation, on boit un grand verre d'eau ou une grande tisane en se couchant, et on boit en se levant une grande infusion, ça peut être un thé ou un café léger, ou un grand verre d'eau. On ajoute à ce plan d'eau les fameux 1,5 fois la perte de poids de l'entraînement. C'est un ordre de grandeur, c'est pas peine de vous peser tous les jours. Vous avez compris que sur ce type de séance, vous perdiez 500 ml par heure, et ben vous compensez à 750 dans les 2 à 3 heures qui suivent votre entraînement.
Merci infiniment Stéphane pour toutes tes explications et ta pédagogie. On va retrouver Harry qui va nous expliquer en quelques minutes comment est-ce que lui, il fait face à la chaleur en Guadeloupe. Mais avant ça, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne route et te donner peut-être rendez-vous, qui sait, sur la ligne de départ du Schneider Electric Marathon de Paris. En tout cas, tu es la bienvenue.
Volontiers, à bientôt Guillaume.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Vambana Harry. Je suis de Guadeloupe, dans la commune de Capesterre. Je suis responsable agricole en banane et je suis marathonien depuis 2007. On se sent bien dans sa peau lorsqu'on est marathonien parce qu'on fait un sport qui donne envie de vivre et de prendre plaisir de la vie. Alors, ce que j'aime au Marathon de Paris, c'est déjà l'accueil, l'ambiance qu'il y a autour déjà du marathon pour la préparation. Le parcours est bien, bien adapté. On est encouragé sur les 42 km 180 et on se sent bien à Paris. Alors, pour mes entraînements, en Guadeloupe, la température est plus ou moins variante. Tantôt il pleut, tantôt il fait chaud. Alors, on s'adapte. On s'entraîne très tôt le matin, c'est-à-dire 5 heures du matin. Et aussi, on s'entraîne le soir à 17 heures. En moyenne, on fait 7 mois d'entraînement avant le marathon. Lorsqu'on vient au marathon, on va galérer, on va souffrir. Et moi, j'aime pas trop la souffrance. Je préfère me préparer convenablement. Les conseils que je peux donner aux auditeurs aujourd'hui, c'est déjà consommer la banane de Guadeloupe et de Martinique parce que c'est le fruit idéal pour un athlète qui veut faire un marathon parce qu'elle est très énergétique, très digestif. Et nous-mêmes, à l'entraînement, nous utilisons ce fruit-là pour les entraînements chez nous. Tout le monde en raffole, tous les sportifs en raffolent la banane. Et les conseils que je donne aux auditeurs, c'est qu'il faut déjà boire beaucoup d'eau et aussi avoir une bonne hygiène de vie et chercher, s'entraîner des moments adaptés tôt le matin et aussi comme on fait en Guadeloupe, tard le soir, avant le coucher du soleil. Tout le monde peut arriver si on veut. Oui, je voulais rajouter au moins remercier LPG, les producteurs de Guadeloupe et de Martinique, parce que depuis que je travaille dans la banane, ils m'ont fait une bonne opportunité de devenir marathonien, parce que sans eux, je ne serais jamais devenu marathonien. Alors, je les remercie. Allez, à très bientôt alors. Au revoir.
Cette émission vous a été proposée par Schneider Electric, qui permet à tous de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources en assurant le progrès et le développement durable pour tous. Schneider Electric est fier d'être le partenaire du marathon le plus responsable au monde, alors vous aussi, rejoignez le programme des Green Runners, à vous de jouer.